Immersion.
Un reportage de Radio Présence.
Mais comment faire pour être heureux ?
Mardi, vous vous en souvenez peut-être, nous avons fait nos premiers pas au cœur des fraternités apostoliques de Jérusalem de Tarbes, où à l'occasion de ce Triduum Pascal, nous avons posé nos micros. Avec sœur Isabelle Mariam, prieure de la Fraternité des Sœurs, nous avons découvert des visages, des lieux, et avons commencé à comprendre un peu de l'indicible de leur vie, leur mission, leur vocation, celle d'hommes et de femmes qui consacrent leur vie à Dieu et vivent en communauté dans les grands centres urbains. Des frères et des sœurs qui veulent mettre la prière dans la ville et porter la ville dans leur prière et révéler ainsi par leur vie fraternelle la présence de Dieu au cœur du monde selon la spiritualité formulée dans le livre de vie de Jérusalem. Enracinés dans la tradition monastique chrétienne d'Orient et d'Occident, comment ces hommes et ces femmes peuvent-ils prier au milieu du tumulte des villes, des va-et-vient et des sollicitations diverses ? Comment peuvent-ils être signe de la présence du Christ dans ce monde qui le connaît si peu ? Comment la ville peut-elle devenir peu à peu leur monastère ? Autant de questions et bien d'autres que nous posons aujourd'hui au frère Christian, curé de la cathédrale, et au frère David Marie. Mais pour l'instant, reprenons par le début. Comment, pourquoi ces fraternités apostoliques ont-elles vu le jour ? Dans quel contexte, quel environnement sociétal et religieux ? Des fraternités qui répondaient aux besoins d'une église en mutation, besoins clairement ou non exprimés. Frère Christian, curé de la cathédrale.
C'est vrai que la naissance de nos fraternités, en tout cas, a correspondu un peu à un moment clé de la vie de l'église. Et puis de la vie du fondateur aussi, donc le père André Cab, qui a pris le nom de Jean-Marie. Donc, il était prêtre diocésain, donc c'est à partir de là qu'est née notre vocation. Donc, au sein d'une paroisse, le père Jean-Marie donc a été depuis son ordination, il était chapelain à Lourdes, et sa grande joie, son grand déchirement, c'était à la fois de voir à Lourdes énormément de vitalité avec des communautés nouvelles qui venaient en grand nombre, soit les manuels, les béatitudes, enfin voilà, beaucoup de foi et lumière, voilà, beaucoup de jeunes communautés qui venaient avec des jeunes et beaucoup de vitalité, et puis à la fois une réalité à quelques kilomètres de là, une réalité paroissiale très pauvre, qui se dévitalisait. Alors, il se trouve que l'évêque de l'époque lui a demandé d'aller en paroisse, c'était la première fois qu'il allait en paroisse. Il était à l'époque responsable d'une école d'évangélisation, donc pour permettre à des jeunes de passer 9 mois à Lourdes pour discerner un peu leur vocation. Et donc il y est resté de 91 à 95. Donc en 95, lorsqu'il a été nommé en paroisse, il a dit à l'évêque, moi je veux bien, mais à condition de ne pas vivre cette mission tout seul, mais de vivre aussi avec quelques jeunes. Et il se trouve que dans l'année où il terminait donc cette année de l'école d'évangélisation, quelques jeunes ont répondu oui. Voilà, ont répondu oui à cet appel, et donc c'est parti comme ça. Donc un prêtre diocésain avec quelques jeunes, garçons et filles, sans savoir trop où ils allaient, ont démarré une petite fraternité, sans prétention, mais au service donc d'un village. Donc c'est parti comme ça. Et puis après, chemin faisant, il a fallu quand même structurer un petit peu cette petite communauté qui grossissait, qui prenait un peu des repères, il y avait petit à petit une règle de vie qui se bâtissait, mais il fallait quand même l'adosser à une communauté religieuse quand même qui avait un peu plus de bouteilles que nous pour nous accompagner. C'est à ce moment-là qu'on s'est tourné vers les fraternités de Jérusalem, parce qu'on sentait qu'il y avait des points communs. Mm-hmm. Il y avait des frères et des sœurs, la fraternité était composée aussi de garçons et de filles. Il y avait aussi une dimension liturgique qui nous tenait à cœur, la beauté de la liturgie, le déploiement aussi d'une belle liturgie qui parlait au cœur des gens, avec des chants aussi qui portaient aussi la prière, rythme de prière aussi qu'on avait dès le début, le, qui structurait un peu notre journée, qui correspondait un peu à ce que les fraternités monastiques aussi vivaient. Il y avait cette dimension de travail aussi, qui est aussi un élément important.
Et une nécessité,
mmh. Exactement. Voilà, une nécessité pour gagner sa vie, mmh. Puis aussi une ouverture au monde. Donc il y avait, voilà, on n'avait pas nous de travail salarié, mais on avait un travail quand même avec notre paroisse. Donc il y avait des points communs. Il se trouve que voilà, notre demande a été acceptée. Donc on a été un peu une greffe dans les fraternités monastiques.
Jérusalem. Pourquoi Jérusalem? Qu'est-ce que ça dit de vous?
Alors, donc, les fraternités monastiques de Jérusalem, hein, donc le père Pierre-Marie Delfieux...
Frère David-Marie.
Il a choisi, enfin, il a reçu un peu ce nom, parce que leur intuition, justement, c'est de vivre une vie monastique au milieu des grandes villes. Et les grandes villes, souvent, comme j'ai dit tout à l'heure, sont parfois le lieu de la solitude, de l'opposition, de la division, alors que normalement, la ville, c'est ce qu'il y a de plus beau. Quand la parole de Dieu nous parle du royaume à venir, elle nous parle justement de la Jérusalem céleste, d'une ville comme rassemblée autour du Seigneur, autour de l'agneau de Dieu. Et donc où tout ensemble fait corps. C'est notre vocation éternelle, c'est pas d'être des solitaires, mais d'être des solidaires. C'est-à-dire que nous avons chacun une vocation unique et en même temps, elle est d'une certaine façon solidaire avec les autres et autour de Dieu. Et donc, vivre notre aventure au milieu de la paroisse, c'est justement dans l'idée que la paroisse est appelée à devenir un peu comme une grande famille. Vous voyez, une expression qui nous a accompagnés beaucoup au début, que la paroisse est une famille de familles. C'est-à-dire, à l'intérieur de la paroisse, évidemment, il y a des personnes très différentes, il y a donc effectivement des familles, mais aussi des personnes célibataires, il y a bon, toutes sortes de personnes, de sensibilités.
Tous dans un cheminement,
voilà. Mais tout ça ensemble, en fait, c'est ça la paroisse. Donc c'est la Jérusalem nouvelle, si vous voulez, vers laquelle nous marchons et que nous sommes appelés déjà un peu à anticiper.
Le royaume de Dieu, il se vit déjà ici.
Il est déjà présent, exactement.
Les fraternités monastiques, j'entends le terme de moine monial, fraternité apostolique, comment vous situez-vous?
Alors effectivement, dans les fraternités monastiques, la dimension monastique est quand même beaucoup plus prononcée, donc notamment la solitude, le silence, qui est vécu d'une façon plus, comment dire, plus comme dans un monastère, vraiment. Alors que chez nous, si vous voulez, on s'inspire vraiment de leur spiritualité, on a le même livre de vie, on vit aussi des temps vraiment de silence, de solitude, notamment le lundi, c'est notre jour de désert, où nous essayons de vivre plutôt seuls, en silence aussi, en prière. Par contre, après, dans notre semaine, notre travail, comme nous n'avons pas un travail rémunéré, mais nous avons un travail, si vous voulez, qui est justement pastoral. Et le travail pastoral, c'est essentiellement la rencontre. Alors, du coup, si vous voulez, on est un peu comme des moines apostoliques, d'une certaine façon, parce que nous avons quand même de la vie des religieux. Nous avons le rythme de vie avec la prière le matin, à midi, le soir, la prière des heures. À table, nous avons le silence, en partie, en tout cas. Nous avons la mise en commun des biens, ce qui est quand même aussi très caractéristique d'une vie monastique ou d'une vie religieuse. Nous avons une caisse commune. Et donc, du coup, ça crée entre nous une sorte un peu de vie de famille, quoi. Enfin, de vie, en tout cas, fraternelle, de frères et sœurs. Voilà. Et voilà, donc, comme vous avez dit tout à l'heure, donc, il y a les frères qui ont leur maison. Nous, on habite au presbytère. Il y a les sœurs qui sont juste à côté. Mais nous prions ensemble et nous avons aussi certains repas ensemble. Et surtout pour le travail pastoral, nous sommes vraiment un peu dans le même bateau, quoi, hein. Donc on est envoyés un peu dans la même mission.
Vous vous m'avez parlé du livre de vie de Jérusalem. C'est un peu votre règle monastique ?
Alors, exactement. Hein, notre livre de vie de Jérusalem, qui d'ailleurs aussi des laïcs s'en inspirent pour leur vie quotidienne, c'est un livre de vie très large, dans le sens où c'est pas le livre de vie ne nous dit pas ce qu'on doit faire à 7h du matin, à midi, voilà, c'est plutôt un tracé spirituel. Et donc, je vous ai parlé tout à l'heure du père André Cab, parce que quand nous avons commencé cette aventure il y a 27 ans, au départ, nous n'étions pas rattachés aux fraternités de Jérusalem. Nous sommes nés, si vous voulez, d'une façon indépendante. Par contre, assez rapidement, donc au bout de 2 ans, on a senti le besoin justement d'avoir une colonne vertébrale quant à notre spiritualité, quant à notre vie de prière et aussi notre vie fraternelle. Et le Père Cab a compris que nous avons besoin d'être parrainés, d'être accompagnés. Et assez spontanément, on s'est tourné vers les fraternités monastiques de Jérusalem parce qu'il y avait déjà des liens à ce moment-là, humains, on se connaissait déjà mutuellement. Et aussi parce que le livre de vie de Jérusalem nous correspond bien, parce que c'est une spiritualité forte et en même temps qui justement est vécue au milieu de la foule, au milieu des personnes. Hein. La recherche de Dieu dans le livre de vie de Jérusalem ne se fait pas d'abord dans la solitude ou dans le désert, mais dans le visage de l'homme, de la femme. Hein. C'est-à-dire que le livre de vie nous dit que le visage le plus beau sur cette terre de Dieu, c'est l'humanité, c'est l'homme et la femme, hein, même si parfois il est blessé, il est un peu voilà, et parfois il faut chercher, hein, parce que nous sommes tous, voilà, on a notre histoire, nous avons, mais cependant ça reste quand même l'image la plus belle sur terre, hein, de Dieu, parce que nous sommes créés, nous, à l'image de Dieu. Ouais.
Des fraternités qui sont peut-être, alors correspondent peut-être à une réalité de l'Église aujourd'hui, du moins ici dans nos pays européens, mais en même temps qui s'enracinent dans un passé très très lointain, celui des premières communautés chrétiennes, et puis peut-être même d'avant, un enracinement vraiment biblique.
Alors tout à fait. Hein, moi je crois que ce qu'a fait Dieu au départ, c'est qu'il a créé Adam et Ève avec leurs enfants. Ensuite, Abraham, il a à partir de l'expérience spirituelle d'Abraham, il y a ce premier peuple qui est né sous la bénédiction du Seigneur, mais après surtout avec Jésus. Hein, Jésus, il n'a rien écrit. Hein, moi, ça me frappe toujours. Rien. Pas un mot, pas une parole. Par contre, il a réuni 12 apôtres. Et nous savons, quand on lit les Écritures, c'est qu'ils ne se ressemblaient pas, ils avaient des tendances politiques complètement différentes, voire opposées. Hein, donc c'est pas ça qui les rassemblait. Ils avaient des styles aussi très, très, très différents, des tempéraments. Et cependant, Jésus, la seule chose qu'il a faite, hein, il n'a pas laissé une espèce de stratégie à suivre, mais il a réuni les 12. Hein, et les 12 apôtres, eh bien, c'est cette première petite communauté chrétienne qui est un peu, effectivement, je dirais, qui est notre matrice, quoi. Hein, l'Église, elle est faite pour se rassembler. D'ailleurs, même avant les 12, il y avait Marie. Et Jésus, quand Marie a dit oui à l'ange Gabriel, ça y est, l'Église était présente. Et après, avec Joseph, pendant 30 ans, ils ont vécu une vie de famille. Et l'Église, c'est ça. Hein, c'est pas des structures, c'est pas des projets pastoraux, des stratégies. Et c'est pour ça que l'Église, en fait, vous voyez, parfois on se dit, oh là là, qu'est-ce qu'elle va devenir, l'Église? Mais l'Église n'a pas trop sans en faire parce que c'est Jésus qui l'a souhaité ainsi. Donc l'Église, à partir du moment où c'est une communauté d'hommes et de femmes, elle est fragile depuis 2000 ans. Mais ça ne fait pas peur à Dieu. Et donc effectivement, l'enracinement, elle est dans l'Écriture, elle est dans l'expérience des premiers chrétiens. Et ensuite, on voit dans les actes des apôtres, hein, donc ils mettaient tout en commun. Et tout de suite, il y a eu des premières communautés chrétiennes, une fois qu'il n'y avait plus trop de persécutions, ils se sont réunis, les petits monastères. Enfin, si vous voulez, c'est après les ordres mendiants. Enfin, tout au long de l'histoire de l'Église, en fait, on cherche à savoir comment vivre ensemble pour devenir une communauté chrétienne où Jésus est présent au cœur.
Et d'ailleurs, hier soir, j'étais avec vous, vous étiez auprès des étudiants. Ce matin, vous étiez avec les enfants du catéchisme, avec les plus petits encore, les enfants adorateurs. Et je me dis, vous êtes là vraiment au cœur de la mission.
Oui. Alors, c'est vrai que quand on est prêtre, quand on est religieux, ce qui est très, très beau, c'est notre travail parce qu'il est très diversifié. Hein, je pense qu'il ne peut pas avoir un travail, effectivement, plus passionnant que celui d'être missionnaire, hein, donc à temps plein. Alors, ce que je découvre, moi, chemin faisant, c'est que, en fait, j'essaye, bien sûr, de donner ce que je peux, mais en fait, c'est toujours un échange. Je donne et je reçois. Et c'est en recevant que je peux donner encore. Et c'est vrai que le missionnaire, parfois, il peut s'essouffler quand il oublie ça, quand il a l'impression qu'il doit faire quelque chose. Là, il s'essouffle parce qu'en fait, il est dans une sorte d'activité humaine. Mais quand il se rappelle que non, mais j'ai rien à faire, entre guillemets, j'ai rien à prouver, j'ai juste à vivre, à vivre la rencontre avec Dieu, la rencontre avec mon prochain, en fait, la mission, c'est ça. Vous voyez, il y a un passage dans l'Écriture, dans l'Évangile, qui nous parle beaucoup. C'est Luc, au chapitre 8, où on voit Jésus parcourant villes et villages, accompagné des 12 et des femmes qui les aidaient de leur savoir-faire, de leurs ressources. En fait, c'est pas compliqué, c'est tout simple. Hein. Parcourant villes et villages, ben, en vivant avec Jésus, la mission, en fait, elle se fait. Alors après, je dis ça, c'est sûr que quand on est en paroisse, il y a quand même aussi des choses où il faut s'organiser, il y a un peu les dossiers à suivre, les tenir les registres, voilà, il y a quand même des choses à faire après. Mais je dirais, c'est pas ça premier, hein, parce que si ça est en premier, c'est là qu'on s'essouffle.
Les paroissiens, qu'est-ce que ça change? Est-ce que ça apporte quelque chose d'autre de participer à tous vos offices parce qu'il y a ce poumon vraiment priant ici au cœur de la cathédrale qui doit rayonner bien au-delà.
Je crois que le changement a été perceptible dans les premières années. Au départ, les paroissiens s'attendaient à voir un curé. Et puis il voit arriver un prêtre avec un ensemble de jeunes, puis une communauté qui prend l'habit et puis qui se met au service des paroissiens. Donc ça a changé un peu le visage de la paroisse, c'est vrai. Et les paroissiens, ben, je pense, ont découvert avec nous le chemin de la prière, le chemin de l'adoration, le chemin de la louange par le chant. Une présence avec plusieurs visages, pas simplement le visage d'un prêtre, leur curé... aussi proche qu'il soit, ben là, il découvrait un visage multiple de l'Église, aussi des visages jeunes aussi. Voilà, il se trouve qu'on était, on est un petit peu moins maintenant aujourd'hui, un peu moins jeunes, mais voilà, des visages souriants, abordables, proches d'eux. Je crois que c'est ça aussi l'idée, c'est de notre fraternité.
À l'écoute,
c'est ça, essayer d'être proche de ceux qui nous sont confiés, voilà. Des familles, des personnes âgées, des enfants, des couples, des...
Demain, très concrètement, nous serons plongés au cœur de la mission des fraternités. Nous les rencontrerons dans leur service auprès des jeunes de l'aumônerie étudiante et au service des plus petits du catéchisme et du patronage. Mais pour l'heure, interrogeons-nous sur le pourquoi et le comment de la liturgie de Jérusalem, liturgie au carrefour de plusieurs traditions entre Orient et Occident chrétien. Père Christian.
Exactement, je crois qu'il y a d'abord une source biblique. Il se trouve que... On trouvait dans le répertoire classique des paroisses parfois une certaine pauvreté, c'est vrai, des chants certes entraînants, mais qui sont pas toujours très bibliques. Et alors c'est vrai que c'est un certain style, c'est vrai. Et on a pu se poser la question aussi quand on est arrivé, est-ce que ça va être adaptable à une paroisse? Ça va bien pour une communauté religieuse qui chante ça tous les jours. Et bien finalement, on fait l'expérience qu'aussi. Enfin, finalement, voilà, même avec des paroissiens lambda qui aiment le chant, et bien voilà, on y plonge dedans. Alors au début, c'est un peu des paysans, c'est vrai. C'est longue litanie, ces refrains et ces couplets qui souvent sont un peu longs, un peu monocordes parfois. Mais enfin, voilà, le chant polyphonique, finalement, on fait l'expérience que voilà, c'est aussi un reflet de la beauté de Dieu, aussi, le chant. Voilà.
Qui sont un appel à l'intériorité aussi.
Oui, un appel à la prière, à l'intériorité, comme vous dites. Oui, voilà.
Avec une tradition orthodoxe, c'est quand même assez présente. Là, derrière nous, il y a encore une icône.
Oui.
Je l'ai vue un petit peu partout dans la maison.
C'est vrai que dès le départ, voilà, c'est des mélodies qui sont soit des mélodies adaptées du grégorien, soit des mélodies, effectivement, qui ont été reprises de la tradition orthodoxe par le père André Gousse, donc, qui est dominicain, qui a écrit donc, la plupart des chants que nous chantons, que nous avons repris en fait des fraternités monastiques. Voilà, alors on a un répertoire moins large parce qu'on est moins nombreux aussi, mais on essaye quand même voilà, d'honorer les temps liturgiques. Ça aussi, ça nous tient à cœur aussi de marquer chaque temps liturgique a un peu une couleur particulière. La couleur du carême n'est pas la couleur de l'Avent, la couleur de Noël n'est pas la couleur de Pâques. Je crois que chaque chant nous fait entrer un peu dans cette atmosphère aussi, nous permet de mieux entrer dans le mystère du Christ voilà, à ce moment-là.
Un grand nombre d'entre vous sont musiciens. J'ai vu un certain nombre d'instruments de musique, de guitare. Vous avez des ateliers de chant aussi? Ou alors, est-ce qu'il faut être chanteur, avoir une belle voix pour rentrer dans les fraternités?
Alors là, vous êtes tombé sur la bonne personne. Alors, il se trouve, moi, je ne suis pas du tout ni musicien ni chanteur. Enfin, voilà, je dis que c'est possible quand même. Dans une communauté où on chante beaucoup, où c'est vrai que si on a la grâce d'avoir des musiciens, des gens qui ont appris la musique, qui savent chanter, même s'ils ne sont pas des professionnels, mais enfin, ils ont quand même aussi une formation musicale. Donc ça, c'est vrai que ça aide, c'est vrai, c'est une grande grâce pour nous. Les personnes qui sont, les frères et sœurs qui sont rentrés au fur et à mesure ont aussi des talents de musiciens. Donc voilà, que ce soit à l'orgue, à la guitare, à la flûte, au violoncelle, enfin, c'est vrai qu'il y a une grande diversité de palette musicale et instrumentale, oui.
Les pieds bien plantés sur le sol, les bras levés vers le ciel, frères et sœurs, vêtus de blanc, prient ensemble, côte à côte. Trois fois par jour, ils se retrouvent ainsi dans la cathédrale. Sœur Monica.
En fait, il y a des éléments de notre liturgie qui viennent de l'orthodoxie, via les fraternités monastiques de Jérusalem qui se sont aussi inspirées de certains éléments liturgiques. Le premier, c'est d'être tourné ensemble vers l'Orient. En fait, dans les monastères traditionnels, le cœur des moines, ils se regardent, ils se font face à face. Et nous, on est tourné ensemble vers l'Orient. Et donc ça, c'est une chose toute simple, mais je crois assez belle, et vraiment d'être tournée vers le Christ. Et après, il y a des éléments comme les métanies et le trisagone qui viennent aussi de l'Orient. Métanie où on touche le sol et on se signe en signe de conversion.
Je me suis posé la question d'ailleurs ce matin.
Et on chante Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Donc c'est... Enfin, un hymne à la Trinité. Voilà. Et trisagion, en grec, ça veut dire trois fois saint. Voilà, après, il y a l'Orient, le fait de chanter l'Esprit Saint avant chaque office. Il y a des petites choses comme ça. Chez les monastiques, c'est plus marquant encore que chez nous, mais d'avoir des icônes. Donc nous, on en a quelques-unes, mais enfin, pas encore énormément, parce que ça coûte très cher aussi. Voilà, et une liturgie qui prend son temps. C'est vrai que si on les laudes milieu du jour, les vêpres, ça peut être dit plus rapidement. En fait, il y a des, nous on a des hymnes peut-être un peu plus déployés, le fait de chanter. Donc c'est vrai que ça prend un peu plus de temps, mais voilà. Enfin moi, c'est vrai que j'ai grandi ici avec cette liturgie, donc pour moi c'est normal. C'est pas
avec des influences aussi du Père Gouze, enraciné vraiment dans les premières églises, mais aussi avec l'apport d'aujourd'hui, notamment avec celle du Père Gouze dans la musique.
Oui, et la liturgie. Complètement. Oui, ça c'est complètement une grâce de pouvoir chanter les hymnes du Père André Gouze, parce qu'elles sont enracinées totalement dans la parole de Dieu et dans les pères de l'Église. Et je crois que c'est très important, les mots de notre liturgie, parce qu'ils nous façonnent. Et c'est vrai qu'il y a des hymnes pour tous les temps liturgiques. Donc en ce moment, on est en carême et on a des textes qui sont aussi adaptés aux célébrations.
C'est vraiment à la source, quoi.
Oui, exactement. Et ça, c'est issu aussi du mouvement liturgique après concile. Il y a eu cette redécouverte justement des pères de l'Église et cette ouverture à l'Orient. Et comme notre communauté est née dans cette mouvance-là, il y a aussi des apports de cette redécouverte qui sont, je crois, une richesse pour l'Église. Et c'est une redécouverte, c'est-à-dire que c'est pas des inventions.
La liturgie, un grand dialogue entre le ciel et la terre, peut-on lire sur le site des fraternités. Demain, nous nous retrouverons encore, et de la colloque des étudiants au patronage des plus petits, nous serons plongés au cœur de la mission de ces fraternités apostoliques de Jérusalem.